Les paradis fiscaux ont permis depuis des décennies à des personnes fortunées de soustraire leur patrimoine et leurs ressources de l'impôt. À cette fonction traditionnelle s'est superposée au fil des ans une nouvelle activité, le recyclage de l'argent sale, qu'il s'agisse de celui des terroristes, des mafias, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des réseaux de proxénètes ou de pédophiles, bref, le recyclage de l'argent de la grande criminalité organisée, mais aussi l'argent de la corruption internationale générée par la conclusion de grands contrats. Les paradis fiscaux sont ainsi devenus des paradis bancaires et judiciaires. Le secret bancaire l'emporte sur toute autre considération et le juge pénal se voit interdire l'accès au circuit financier. Comment les enquêtes sur la grande criminalité et sur la corruption internationale peuvent-elles se développer? Quelles solutions peuvent être adoptées? Les difficultés sont à la fois dues au mécanisme de la coopération judiciaire internationale et aux spécificités de la matière financière. Attachons-nous d'abord à la problématique générale, celle de la coopération judiciaire internationale. Cette problématique n'est pas l'apanage des paradis fiscaux. Elle se pose d'abord dans la reconnaissance des systèmes judiciaires. Les systèmes anglo-saxons sont très différents des systèmes inspirés du droit romain. Dans certains pays, l'autorité de poursuite est un magistrat. Certains d'entre eux connaissent le juge d'instruction. Dans d'autres pays, l'autorité de poursuite est policière. Certains pays ne reconnaissent la validité de la preuve testimoniale que si elle est reçue par une juridiction. Les pays n'accordent pas les mêmes droits aux personnes, qu'il s'agisse des auteurs ou des victimes, en particulier pour l'assistance d'un conseil. Ces différences de système sont souvent la source de difficultés et paralysent la coopération. Il est donc nécessaire que soit posé le principe d'une reconnaissance réciproque des systèmes judiciaires entre États de droit. Ce principe vaut pour les règles de procédure pénale en ce qu'elles concernent les autorités judiciaires ou policières compétentes, les systèmes de preuve, les droits des personnes. Mais il vaut aussi pour le droit pénal qui définit les infractions poursuivies, les compétences rationae loci, ratione materiae et ratione temporis. Cette problématique générale, maintenant, touche aussi la transmission des demandes. La voie diplomatique est inadaptée à l'heure du fax et d'Internet. Elle prend souvent des mois, alors que les réseaux pédophiles existent en ligne sur le web et sont accessibles dans le monde entier. Il faut donc privilégier la communication directe entre les autorités judiciaires et policières compétentes dans chacun des États, afin de permettre à la justice pénale de respecter des délais raisonnables au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. L'essentiel est de permettre à l'autorité requise, chargée de l'exécution de la mission, de commencer ses investigations sans attendre l'arrivée de la demande d'entraide par la voie diplomatique et de transmettre le résultat de ses recherches directement à l'autorité requérante. Cette communication n'exclut pas le maintien de la transmission de l'original de la demande et de la réponse par les chancelleries. Et enfin, cette problématique générale touche aussi les mandats d'arrêt internationaux. Il est souvent périlleux d'obtenir l'arrestation puis l'extradition d'auteurs localisés dans un pays étranger. Le constat est clair. De nombreux mandats d'arrêt internationaux délivrés dans le cadre d'affaires pénales de première importance ne sont pas exécutés. La solution est pourtant simple. Tout État respectueux du droit devrait exécuter ses mandats dès lors qu'ils sont délivrés par une autorité judiciaire indépendante. Il en va de même pour la diffusion des fiches de recherche. Voyons maintenant les difficultés spécifiques à la matière financière. Les circuits empruntés par l'argent sale sont opaques en raison du recours à des sociétés écrans et à des comptes protégés par le secret bancaire. Étudions d'abord le cas des sociétés écrans. Le constat. La vocation d'une société est d'avoir une activité économique, de quelque nature qu'elle soit. Or, de nombreuses sociétés, utilisées comme écrans, n'ont d'autre finalité que de masquer l'identité et la turpitude de délinquants internationaux. Ainsi en est-il, par exemple, de sociétés immatriculées au Panama, aux Bahamas, aux îles Caïmans, à Madère ou en Irlande. Leur animateur n'a jamais exercé la moindre activité dans ces pays. La coquille vide achetée clé en main pour moins de 10 000 dollars dans une fiduciaire de Genève ou du Liechtenstein ne sert que d'écran pour le recyclage du produit du crime organisé. L'argent provenant de cette activité circulera au nom de la société au Luxembourg, en Suisse ou dans les îles anglo-normandes avant d'être investi une fois blanchi dans l'immobilier à Paris ou Tokyo ou dans les bourses de New York, de Londres ou Francfort. À l'arrivée, son origine sera indétectable. Comment y remédier ? Les solutions, elles sont doubles. En premier lieu, il est nécessaire d'assurer la transparence au sein de toute société. Les personnes qui la contrôlent doivent pouvoir être identifiées par l'autorité publique. En second lieu, toute société devrait être immatriculée auprès d'un registre du commerce où seraient centralisées des informations relatives à son activité, ses dirigeants et ses comptes de résultats. Maintenant, étudions le cas des comptes protégés par le secret bancaire. Le constat. Il est facile pour une organisation criminelle de faire circuler en quelques jours d'importantes sommes d'argent d'un point à l'autre de la planète. Pour l'enquêteur, les virements d'un pays à l'autre constituent autant d'obstacles. À chaque fois que l'argent franchira une frontière, fût-ce de façon immatérielle, il faudra délivrer une commission rogatoire internationale afin d'identifier le compte ayant réceptionné les fonds. Une fois cette étape franchie, une nouvelle commission rogatoire devra être délivrée afin d'identifier le compte suivant. Prenons un exemple. 10 millions de dollars sont virés de Genève à Singapour, puis de Singapour au Liechtenstein, puis du Liechtenstein au Luxembourg. Le constat est encore plus clair que celui relatif au mandat d'arrêt. Il est quasiment impossible de démanteler une filière organisée. Quant au blocage du produit du crime, ce n'est qu'une utopie. Les solutions. Les enquêtes ne peuvent progresser que si le secret bancaire est levé. La transparence doit l'emporter, dès lors que des enquêtes pénales sont déclenchées, sur l'opacité. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra tracer le cheminement de l'argent sale. Première solution, la suppression des recours. Il faut exiger de certains pays, comme la Suisse, le Liechtenstein ou le Luxembourg, qu'ils abandonnent les obstacles légaux qu'ils laissent à la disposition de la criminalité organisée pour entraver la transmission des informations. La législation de ces pays permet en effet à tout titulaire d'un compte de s'opposer à l'exécution des commissions rogatoires internationales en leur octroyant la possibilité d'exercer des recours. Ces recours leur permettent de contester la légalité des investigations bancaires devant le juge requis, par exemple le juge suisse, puis d'interjeter appel de sa décision, puis de contester la légalité de la décision d'appel devant la juridiction suprême. Or, durant ces délais, qui durent des mois, le juge requis ne pourra transmettre aucune information à l'autorité judiciaire de l'État requérant. Deuxième solution, l'identification des véritables titulaires. Il est également nécessaire que les paradis fiscaux exigent de leurs banques qu'elles identifient le véritable ayant droit économique, personne physique, des comptes ouverts au nom de personnes morales. Cette règle a été adoptée par la Suisse depuis maintenant une dizaine d'années. Troisième solution, la centralisation des comptes. Cet effort est cependant insuffisant dans la mesure où seul le banquier a connaissance de l'identité de cette personne physique. Il faut donc aller plus loin et centraliser auprès d'une institution d'État les comptes bancaires ouverts au nom d'une même personne dans un même pays. Il est en effet paradoxal que des investigations progressent dans un pays auprès d'une banque identifiée, alors que la personne visée dispose d'autres comptes auprès d'autres banques dans le même pays, sans que le juge le sache et sans qu'il puisse le savoir. S'il pouvait questionner l'autorité centralisatrice, il pourrait avoir l'accès à l'ensemble des comptes, identifiés ou non, d'une même personne dans un pays donné. Pour conclure, certains paradis bancaires et judiciaires sont réticents pour adopter de telles mesures. Les sanctions pouvant être mises en œuvre à leur égard pourraient être les suivantes. Absence de reconnaissance de la personnalité morale des sociétés qui y sont domiciliées. Ou encore, blocage de toute transaction financière liée aux banques installées dans ces États. Il est paradoxal de constater à cet égard, que d'importantes banques des démocraties occidentales disposent de filiales au sein même des paradis fiscaux. Seules des pressions de la communauté internationale sont de nature à préserver les démocraties des menaces réelles qui pèsent sur elles. La création d'une instance internationale régulatrice disposant d'une autorité morale incontestable permettrait de s'assurer du bon fonctionnement de la coopération judiciaire pénale entre États et de sanctionner les États défaillants.